aujourd'hui, je vais vous parler de UNESDR et la gouvernance, donc plus particulièrement des protocoles de stand-by et de UNESDR. Donc, je vais d'abord vous présenter un peu qu'est-ce que la UNESDR, en quoi consistait la conférence de stand-by, en quoi consistait le plan d'action de Hyogo, en quoi consiste celui de stand-by, et maintenant, un peu quelques exemples rapides des implantations au niveau international et comment est-ce que les principes, dans le fond, de ces plans-là se traduisent concrètement en action. Donc, l'UNESDR, c'est la stratégie internationale des Nations Unies pour la réduction des désastres, et ça découle du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de désastres. Ça a été établi en 1999 pour favoriser l'implantation de la stratégie internationale pour la réduction des risques de désastres. Le protocole de stand-by, le plan d'action de stand-by, dont l'UNESDR est en charge de la mise en place du suivi et de la révision, vient en fait est appuyé sur les principes du protocole du plan d'action de Hyogo. Du plan d'action de Hyogo qui lui avait dans le fond un horizon 2000-2015, mais avant ça, il y avait la International Strategy for Disaster Reduction en 1999, la stratégie de Yokohama en 1994 et le Framework for Action for the International Decade for Natural Disaster Reduction qui lui date de 1989. Donc ça fait quand même longtemps que les Nations Unies se penchent sur la question. Ils ont 5 bureaux régionaux, plusieurs présences un peu partout dans le monde et c'est à travers les bureaux régionaux dans le fond, que la coordination se fait réellement. OK. Donc, la conférence de stand-by qui s'est déroulée du 14 au 18 mars dernier vient 10 ans, dans le fond, après le protocole de Hyogo et 3 ans après les événements de Fukushima au Japon. Donc, la conférence qui s'est déroulée là-bas, c'était la troisième conférence mondiale sur la réduction des risques et elle visait d'aller vraiment vers des objectifs encore plus ambitieux que ceux qui avaient déjà été élaborés pour le protocole de Hyogo. Ça a regroupé 187 États, de nombreux participants qui venaient à la fois des gouvernements, des organisations internationales et aussi des experts en matière de gestion des risques et des praticiens dans le milieu. Ça tournait autour de 3 thèmes principaux. Donc, l'amélioration de la résilience, pas seulement par la réduction des risques, mais aussi par la préparation des populations et des communautés à faire face aux chocs. Donc, dans le fond, parce que les risques ne peuvent jamais être tous prévus. Donc, c'est vraiment de préparer à faire face aux perturbations, en fait, que les risques apportent. Et il y a un focus qui était fait beaucoup plus qu'avant sur les désastres qui sont moindres, mais qui sont plus fréquents, plutôt que les méga-désastres, qui étaient avant vraiment l'objectif central de ces plans d'action-là. Ça vise à aussi améliorer la résilience par la collaboration nord-sud, donc vraiment une coopération entre les pays en voie de développement et les pays développés pour essayer d'offrir des ressources et de vraiment collaborer là-dessus. La promotion des solutions locales, ça veut dire vraiment d'utiliser les autorités locales, non pas seulement comme des gens qui peuvent servir à mettre en place les principes de ce plan d'action-là, mais aussi et surtout à aller chercher des indicateurs, à aller chercher des informations de la part et à un double rôle à la fois d'autonomisation des populations, des autorités locales face aux risques de désastre auxquels ils font face, mais aussi une responsabilisation des instances gouvernementales face à leur intégration, donc ils ont plus de surveillance qui est faite à ce niveau-là et ça améliore la responsabilisation de tout le monde. Et finalement, favoriser l'inclusion à la fois des pays en voie de développement dans les stratégies qui sont mises en place à l'international, mais aussi et surtout des groupes vulnérables comme les femmes, les personnes en situation de handicap, les jeunes, et vraiment d'essayer d'intégrer ces groupes-là et la population en général à travers tout le processus d'élaboration de la gestion des risques de désastre pour essayer d'améliorer la résilience de toute la société, dans le fond, selon le principe selon lequel la résilience d'une société n'est à nouveau que de la résilience de ses éléments les plus vulnérables. Donc, le plan d'action de Hyogo a été adopté à la conférence mondiale qui s'est déroulée à Kobe en 2005. Il a commencé à faire l'objet d'un processus de révision à partir de 2013, mais il faisait aussi l'objet d'un suivi annuel. Il a été approuvé et adopté par toutes les agences qui étaient là. Il s'orientait autour de 5 priorités d'action et il y avait un double objectif à la fois de réduire les pertes qui sont occasionnées par les désastres, mais aussi d'améliorer la résilience à la fois des nations et des communautés. certaines faiblesses ont été décelées dans ce plan d'action-là suite à son évaluation, particulièrement à partir de 2013. Donc, ça a été basé sur 22 indicateurs et ça donnait à chacun des pays une note entre 1 et 5 par rapport à leur compétence à faire face aux risques de désastre. Or, ce qu'on a décelé, c'est que les mesures étaient surtout correctives des symptômes des désastres ou en tout cas des impacts versus d'aller vraiment aller chercher les causes, donc d'améliorer la résilience. Et les progrès n'étaient pas calculés non seulement en fonction des risques auxquels faisait face une nation, mais par rapport au programme qui était déjà en place. Donc, on regardait seulement ce qu'il y avait mis et non pas les effets concrets de ces programmes-là et l'amélioration réelle, l'évaluation réelle des impacts que ça avait par rapport à la réduction des risques. Les intrants seulement étaient pris en compte. Donc, si on avait mis en place un programme, ça donnait une meilleure note à un pays, mais on n'évaluait pas l'efficacité de ces programmes-là. Et l'évaluation se faisait par les gouvernements, donc c'était très subjectif. Donc, le plan d'action de Sendai vient un peu à pallier à ces faiblesses-là. Il s'articule, c'est une approche qui est multirisque et multi-acteur. Donc, on a arrêté de vraiment essayer de fonctionner par une approche scénario, mais plutôt de fonctionner par une approche qui considère les nations dans leur ensemble et qui cherche à améliorer leur résilience par rapport à n'importe quel type de risque. Il y a trois stratégies de réduction des impacts de risque. Donc, les trois stratégies, c'est réduire les risques, prévenir la survenance de risques supplémentaires, donc en évitant par les mesures de rétablissement qu'on met en place de provoquer des risques davantage et d'améliorer la résilience. Il y a donc sept cibles mesurables à atteindre, quatre qui visent les impacts, soit le taux de mortalité, le nombre de personnes affectées, les pertes économiques et les dommages aux infrastructures critiques. Un objectif par rapport à la collaboration entre les pays, par rapport à la communication, donc d'essayer d'améliorer et d'augmenter la quantité, le nombre et l'efficacité des systèmes d'alerte précoce en matière de risque. Et aussi l'objectif en gouvernance, donc c'est d'essayer d'avoir le plus de pays possible qui ont des stratégies de réduction des risques, qui ont des stratégies de réponse aux risques et qui ont des plans de rétablissement qui ont été établis. On peut passer au prochain. Pour l'instant, donc ça date de mars, l'implantation qui en a été faite, vous donner quelques exemples un peu de comment est-ce que ça peut se traduire. Donc, en République dominicaine, dans la région de la Rousse, on a vraiment intégré les risques, les groupes qu'on avait jugés comme étant les plus vulnérables à tout le processus d'évaluation des risques, de planification de la réponse et aussi de planification du rétablissement, donc particulièrement les groupes de jeunes, les groupes d'autochtones et les groupes de femmes qui ont été appelés à participer à des consultations et à vraiment s'impliquer dans le processus. En Iran, on a établi des systèmes de cueillette d'informations par rapport aux risques et aussi par rapport aux impacts. Et ça fait plusieurs années que ces programmes-là sont en place et il y a vraiment eu un effort qui a été fait sur non seulement vraiment d'aller recueillir ces informations-là, mais aussi d'avoir un système systémique pour les évaluer. On a vraiment des indicateurs qui sont constamment améliorés et révisés, qui permettent vraiment d'évaluer l'amélioration ou la progression du pays dans le monde dans son amélioration de sa résilience. Au Japon, on a intégré des cours et l'éducation par rapport au risque de désastre dès l'école primaire. Donc, c'est vraiment intégré dans la culture, dans la mentalité, dans le programme scolaire. Au Soudan, on a cherché à appliquer le principe d'intégration des préoccupations de gestion des risques à tous les niveaux de la gouvernance. Donc, par rapport à leurs mesures de gestion des ressources en eau potable, justement, on s'assure que les mesures qu'on applique et les principes qu'on a sont toujours en accord avec aussi les principes de réduction des risques de désastre et la gestion de ceux-ci. En Australie, on a développé des systèmes d'alerte précoce qui peuvent permettre aux instances gouvernementales vraiment d'aller toucher les populations localement, à la fois sur les lignes fixes et sur les lignes cellulaires, et de vraiment permettre d'aller chercher les populations en temps, de façon précoce, et de vraiment, ça a aidé à vraiment réduire les impacts en matière de risque. C'est sûr, il reste énormément à faire, parce qu'on s'est rendu compte que, malgré une amélioration marquée entre le moment où on a mis en place le plan d'action de Hyogo et le moment où on a élaboré celui de Sendai cette année, il y a une augmentation globale des risques et des désastres naturels et une augmentation des impacts, à la fois financiers, en matière de perte de vie et en matière d'impact sur les infrastructures essentielles. Donc, c'est sûr que c'est un peu un travail à contre-courant parce que plus on avance, pire c'est. Mais avec des objectifs de plus en plus précis, de plus en plus mesurables et quantifiables, on espère que ça va améliorer éventuellement la situation.